9h41 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Mon invité a tout testé de la liberté du web et de la scène. Il bascule côté télé dans un exercice sur le fil du rasoir. 15 minutes hebdomadaires de vannes mêlant humour potache et humour noir. 15 minutes pourtant politiques, engagées et très sérieusement articulées. La grosse marade peut-elle servir la morale citoyenne? Y a-t-il un autre moyen de parler aux jeunes qu'en leur filant carrément les chocottes ou en les faisant franchement se bidonner? Bonjour Kevin Razi.
Bonjour Sonia, bonjour Philippe.
Rendez-vous, oui, bah oui, il y a Philippe Vandel, mais je ne l'ai pas encore dit.
Pardon,
enfin, tout le monde
pardon,
le sait que le vendredi, il y a Philippe Vandel. Alors, rendez-vous avec vous, c'est-à-dire rendez-vous avec Kevin Razi, zut, ça démarre lundi soir à 22h35 sur Canal+. Un mot d'actu d'abord, une bouchée de Madeleine comme chaque vendredi. L'humeur de Vandel, salut Philippe.
Salut Sonia, oui, j'étais là dès le début de l'émission. J'ai écouté Augustin.
Est-ce que ça va bien Philippe? Est-ce que
très...
ça va mieux?
Parfaitement bien.
Moi,
parfaitement
pas top.
Mieux. Pas top vous?
Non, moi pas top. Mais je suis à la radio, je peux le dire.
Vous voulez que je démarre maintenant?
Non. Je suis un peu tristoune aujourd'hui.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors à la télé, on dit que ça va bien et quand ça va mal, on dit qu'on est confiant. TF1 a publié hier un résultat opérationnel divisé par 3 en un an. Le résultat opérationnel, c'est pas le chiffre d'affaires, hein. C'est pas l'argent qui rentre dans les caisses, et ce qui reste à la fin, c'est la capacité d'une entreprise à être rentable. Bref, un chiffre d'affaires publicitaire en baisse aussi, alors que pour chez les concurrents, ça va plutôt très bien. Les audiences du groupe, elles se maintiennent grâce aux chaînes de la TNT. Celles de TF1, en revanche, s'érodent dangereusement. La chaîne multipliant les nouveaux projets de fiction pour s'en sortir, mais aussi les rendez-vous avec les visages socles de l'antenne, Brognard de Chavannes, Bocconi, Coligny, Arthur, Nicosaliagas, histoire qu'on ne perde pas nos repères. Enfin, coup de gueule du patron de TF1 qui exige des box du genre Orange, Free, SFR, d'être rémunérés en échange de la diffusion de leur programme. Évidemment qu'on est vendredi, évidemment qu'on joue dans l'Instant M. La Madeleine du jour demande à ce que vous soyez au plus près d'une boîte mail et que vous m'écriviez à cette adresse, l'Instant M, tout attaché, à radiofrance.com. Je vous offre aujourd'hui... Ça, c'est très passionnant. Ça, c'est si vous nous regardez en vidéo.
Oui,
mais aujourd'hui, il faut nous regarder absolument en vidéo. D'abord, vous allez voir le très beau Kevin Razi. Et ensuite, vous allez voir Philippe Vandel qui a plein de choses à vous montrer, pas seulement à vous dire aujourd'hui. Alors moi, je vous offre Afrique, une autre histoire, une autre mémoire. Oulala, aujourd'hui.
Ouais, non.
Afrique, une autre histoire du XXe siècle. C'est une grande série documentaire rééditée par l'INA. 100 ans de mémoire politique, c'est passionnant. Bon, la question du jour est la suivante. Qui a été... pendant toutes les années 80, correspondant de Radio France à Washington, c'est une des voix les plus connues de la maison. Du coup, on a corsé l'affaire, il est par téléphone.
Le chef de la Maison-Blanche a eu quelques difficultés à faire connaître ses intentions dimanche soir, car les chaînes de télévision avaient établi leur programme de longue date et elles n'ont finalement consenti qu'à vendre 5 minutes d'antenne en fin de soirée au comité républicain. Ronald Reagan est donc apparu sur les écrans à la fin d'un film intitulé « La Troisième Guerre mondiale » sur NBC. Une très mauvaise publicité quand l'électeur américain moyen s'inquiète du caractère belliqueux de son président.
Qui a été correspondant de Radio France à Washington? Ça, c'était l'époque Reagan, c'était les années 80. Philippe Vandel.
Première figure, la télé-réalité, c'était Loana. Elle était lundi sur Europe 1, où on lui a posé la question de base.
La première question qu'on a envie de vous poser, c'est simplement de savoir comment est-ce que vous allez. On a souvent été très inquiets à votre sujet.
Je vais beaucoup mieux et je suis heureuse en ce moment.
Donc elle va beaucoup mieux. Et peu de temps auparavant, le 3 janvier, j'étais tombé sur une interview très touchante de Pierre Ménès, qu'on ne voyait plus au Canal Football Club. Il était interrogé par Hervé Matou, le boss du CFC. Même question qu'avec Loana.
Comment ça va?
Ça va aussi bien que possible. J'étais à l'hôpital Necker hier. Les médecins sont enchantés des résultats des greffes. Le foie va super bien, le rein va super bien. Donc.
Alors pourquoi je vous fais entendre ceci? C'est parce que c'est en découvrant que Pierre Ménès allait mieux que j'ai appris qu'il allait très mal. Et c'est la différence entre la vie publique et la vie privée. Entre proches, on se dit les choses, mais quand vous allez au supermarché, vous connaissez personne, la caissière vous raconte pas qu'elle a un cancer du côlon. Et inversement, quand on vous demande si ça va et que vous répondez non, eh bien vous risquez de contrarier votre interlocuteur, donc jamais dans les médias. explication, plutôt démonstration, je suis allé chercher dans mes archives. En couverture de VSD, j'ai trouvé Claire Chazal.
Là, il faut nous regarder en vidéo sur franceinter.fr.
Claire Chazal sort du silence, je suis mieux dans ma vie. Alors ce qui m'étonne, c'est que je ne savais pas qu'elle était mal dans sa vie.
Ah, oui.
Surtout que chaque année, si on en croit la presse, elle va toujours mieux. Autre exemple, la couverture de Gala, Lara Fabian, j'assume enfin mon corps. Pareil, je savais pas qu'elle assumait pas son corps. Pour tout vous dire, j'en dormais plus quand j'ai appris ça. Et c'est une règle de base chez les people. Tout le monde va mieux. T'as pas le droit de dire que tu vas mal. Ni même que tu vas pareil. Jamais dans une interview, vous lirez « Oui, je vais aussi bien qu'il y a 5 ou 10 ans ». Non. Soit les gens vont mieux, soit le sujet n'est jamais évoqué. Alors vous allez me dire, il y a quand même des gens qui vont mal. Oui, mais les gens qui vont mal, ils font pas d'interview. Ils vont toucher les RMI, ils font pas d'interview. Et ils le racontent ensuite. Autre exemple, une couverture de Gala, Stéphanie de Monaco. Aujourd'hui, je suis en paix. Moi, je savais pas qu'elle était en guerre. Et même la journaliste et médecin Marina, je ne te confonds pas avec Hélène, Marina Carrère-Dancos, ça fait la une de TV Grande Chaîne. Marina Carrère-Dancos, je commence à m'accepter. Pour la connaître un peu, je ne savais pas qu'elle ne s'acceptait pas. Clémentine Sellary a inspiré ce titre aux Parisiens. Et chaque année, on prend tous un an. Hein.
Oui.
C'est génial de prendre de l'âge. C'était en avril 2015, elle avait 57 ans. Et alors parfois, la vieillesse peut surprendre. La preuve, c'était la chanteuse Isia qui disait au journal Elle. Elle disait « À 20 ans, je n'étais pas bien, mais plus je me rapproche de mes 25 ans, plus je me sens apaisé. » Alors Isia, si tu nous écoutes, je veux dire, quand tu auras l'âge de Clémentine, tu vas être tranquillou, tu vas être vraiment zen. Là, on rigole, parfois ça peut vraiment être tragique. En 2012, Le Figaro avait consacré un article au chanteur Daniel Darc. Titre du papier, « Je n'ai jamais été aussi bien ». Et on l'a retrouvé mort un an plus tard. Et alors, il y a la même règle tacite en politique. Comme aux grandes heures de la langue de bois soviétique, tout est toujours mieux qu'avant. Par exemple, souvenez-vous, il y a moins d'un an, on pensait que le président Hollande, François Hollande, allait se représenter à la présidentielle. Lui aussi le pensait. Mais comme il ne pouvait pas dire que la France allait bien, il avait trouvé un subterfuge que Libé avait relevé. Pour Hollande, ça ne va pas bien, mais ça va mieux.
Ah bah oui, tout le monde l'avait relevé, tout le monde l'avait abondamment commenté.
Et là, François Fillon, pris dans la tourmente des affaires, a utilisé le même procédé. C'était lors de sa conférence de presse lundi dernier, il a conclu ainsi.
J'annonce ici même que c'est une nouvelle campagne qui commence.
Donc la campagne est nouvelle, mais nous on savait pas que l'autre était ancienne. On pensait que c'était la campagne normale. On n'avait absolument pas compris ça. Et Fillon en rajoute une couche.
C'est donc, mesdames et messieurs, avec une énergie décuplée et une détermination farouche que j'aborde les prochaines semaines de cette campagne.
Alors je le coupe ici, sa détermination est farouche, mais surtout son énergie est décuplée, c'est-à-dire multipliée par 10. C'est-à-dire François Fillon, c'est Hulk, il pète sa chemise, moralité, il va beaucoup mieux.
Exactement. Merci Philippe. Moi aussi, je crois que je vais beaucoup mieux.
Ah, voilà.
En vous écoutant, le gagnant du jour s'appelle Alain. Bravo Alain. Vous allez vraiment bien et vous avez reconnu quelqu'un qui doit péter la forme, comme ouais. Il se doit, qui s'appelait Jean-Luc Hess, correspondant pendant 10 ans de Radio France à Washington, grand amoureux de l'Amérique et du rock'n'roll.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Et voilà, le rendez-vous avec Kevin Razi, c'est une petite émission qui sort les crocs et qui sort les vannes, qui démarre lundi soir sur Canal+, 22h35, qui n'est pas réservée qu'aux abonnés pour sa première, double diffusion sur Facebook, en live. Ohé les jeunes, c'est vraiment ça. Ohé les jeunes qui tournaient le dos à l'info et aux piliers de notre démocratie, ohé, vous m'entendez?
Alors attendez, il y a un truc que je comprends pas. Si les gens qui raccrochent systématiquement au téléphone sont anti-système. Comment ils pensent avoir autant sur eux, en fait? Ou alors les gens accrochent en disant « Eh, vous arrêtez de m'appeler, là, avec vos sondages? Moi, je suis anti-système, hein. Je fais partie de la tranche des 25-35 célibataires ouvriers déclarant de moins de 35 000 euros à l'année, donc comptez pas sur moi pour répondre à votre sondage. Merde !»
Merde. Voilà, la blague, c'est que dans votre première émission, vous vous appuyez largement sur la mienne, Kevin Razi, extrait du patron du Parisien, annonçant ici même l'arrêt des sondages dans son journal. Et sa langue de bois ne vous aura pas échappé durant mon interview, et ça m'a fait bien plaisir. Alors, un premier mot d'abord. Évidemment, sa langue du côté des late shows américains. Soyons un peu pédagogiques, parce que les late shows, les journalistes, donc ce mot-là à la bouche, mais dans la vraie vie, personne ne les regarde et tout le monde mélange tous les animaux. Animateurs américains. En gros, un bureau avec un mug dessus, un panorama urbain en arrière-plan, du public, une diffusion tard le soir, un présentateur blanc, non. Mais ça a été longtemps hein, la marque de fabrique des late shows, vous êtes d'accord? C'était quand même vrai. Un public un peu upper class.
C'est vrai.
C'est
exactement.
Ça assez âgé, très masculin.
Oui, mais après, nous, on est plutôt dans la lignée des news shows. Le late show, c'est de l'entertainment, du divertissement. On a des artistes, on fait des jeux. Le news show, ça pastiche les journaux, les JT, mais avec un ton décalé et satirique.
Voilà. Sauf que vous n'êtes pas dans la revue de presse. Et ça aussi, on va en parler. C'est très différent. Vous avez aussi le costard cravate. Pas aujourd'hui pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais vous avez le costard cravate. Et à la façon du Late Show, c'est extrêmement ciselé dans le discours. C'est un texte, c'est très écrit, Kevin Razi.
C'est très écrit. C'est du stand-up assis, comme je le dis. Et on a la chance de travailler les émissions sur deux publics différents. Donc en début d'après-midi avec un public. Ensuite, j'ai 2 heures pour réécrire là où ça n'allait pas avec mon équipe d'auteurs et de journalistes. Mmh. Et après, à 19h30, on enregistre de nouveau ces émissions avec les modifications. Donc on a vraiment beaucoup de travail là-dessus.
Alors vous en avez déjà 2 à disposition sur le web, parce qu'en fait, il y a eu 2 pilotes. Hein, en réalité, vous les avez testés sur des sujets hyper chauds. La première était consacrée à un djihadiste, Rachid Kassim. Manifestement, il a été tué depuis.
Semble-t-il.
Hein, j'ai vu un papier du Monde passer là-dessus. Au début, on soupire un peu. On se dit, grosse vanne là-dessus, est-ce que ça va passer? Ensuite, on est assez collé, je dois vous dire, par le sérieux et par le cohérent de l'affaire. Parce que c'est 15 minutes de monologue. 15 minutes, c'est pas un sketch. C'est comme une disserte. C'est extrêmement articulé sur un sujet plutôt ardu. C'est-à-dire que vous prenez le sujet et vous le décomposez dans ses 1000 facettes, dans toutes ses impasses. En fait, vous prenez un sujet et toutes les impasses sur lesquelles se heurte notre démocratie, vous les prenez de front.
C'est joliment résumé, mais mon but c'était surtout de faire une émission où on pouvait expliquer comment Daesh revendiquait les attentats, etc. Donc on découvre qu'ils ont aussi des attachés de presse, etc. Enfin c'est tout.
Attendez, bougez pas, on vous écoute.
La chose qui m'intrigue le plus chez Daesh, c'est comment ils font pour revendiquer les attentats. Je veux dire, ils ont un attaché de presse, ils ont des contacts avec les journalistes en direct, genre ouais, Nathalie de l'AFP, c'est Abou de Daesh, comment tu vas? C'est pas une vanne. Hein. Ils ont un attaché de presse et il s'appelle Abou. Vraiment. Ouais, juste pour te dire, l'attentat d'hier, devine qui c'est? C'est Boubou. T'as aimé ou pas? Je te fais un mail de récap? Ouais, vas-y. Allez, au revoir.
Au revoir. C'est vrai? Ils ont un attaché de presse.
Il est mort depuis.
Il est mort.
Ils ont tout un organe de presse. Et en fait, le plus important pour moi, c'était de cibler les jeunes, parce qu'en fait, Rachid Kassim recrute via les réseaux sociaux, et donc on a voulu se poser comme barrage en fait sur les réseaux sociaux, en espérant sauver peut-être une ou deux personnes qui étaient un petit peu perdues, voilà, et pour leur expliquer qu'en fait, c'était pas si rose que ça de l'autre côté.
Donc il y a du vrai dans la vanne. Il y a du vrai. C'est de la important. Même manière que votre mère était vraiment dans le studio, c'était vraiment votre maman.
C'était vraiment ma maman. Ouais.
De la même manière que vous votez vraiment blanc?
Je vote blanc, ouais.
Non mais parce que ça en France ça se fait pas du tout, Kevin Razi. Personne ne dit pour qui il vote et comment il vote.
Ouais,
quand on
sais.
Est un animateur télé.
Mais moi comme en fait je suis pas journaliste, je suis surtout comédien, citoyen, donc j'ai pas de neutralité à avoir. J'aime bien dire ce que je pense et me baser sur mes expériences personnelles.
C'est ça, donc en fait tout ce qui relève de l'information a sa place, même au sein de la distorsion satirique. Et c'est là où on touche évidemment ce qu'on appelle le fil du rasoir, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller vraiment dans la déconne, jusqu'où on heurte le public pour réveiller sa conscience, jusqu'où on le fait marrer pour le faire écouter autre chose autrement, et en même temps, comment là-dedans on glisse ce qui ressemble pour le coup vraiment à de la morale citoyenne.
Alors déjà, il y a un travail avec des journalistes en amont, hein, je ne suis pas là à sortir des infos de mon chapeau, et surtout, en fait, je pense que la sincérité, ça fait du bien aux gens, de pouvoir avoir quelqu'un qui incarne ses propos, et pas qui reste justement sur cette espèce de neutralité qui, du coup, essaye de ratisser un peu large. Moi, je préfère leur dire, voilà, je pense ça, et on pourra jamais m'attaquer de penser ça. En revanche, je pourrais me dire, en fait, tu t'es trompé parce que... Et c'est ça mon but, en fait, et je pense que je me sens pas si provocant que ça, en fait.
Non, pas tant que ça.
Pas tant que ça, en fait.
Non.
Je suis juste en train de raconter des faits, parfois peu entendus, qui peuvent parfois choquer, mais je ne suis pas provocant. Mon but, c'est pas de heurter volontairement.
Et surtout, il y a un moment où vous changez de ton. C'est-à-dire qu'il y a une conclue à cette disserte.
Hein. Oui, c'est vrai.
Comme on l'a appris à le faire au lycée, il y a une conclue à cette disserte. Et là, c'est vraiment les yeux dans les yeux. L'heure est grave et le sujet dont je vous parle, il est fondamental pour l'avenir de notre démocratie. Parce que forcément, vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut se marrer de tout, tout le temps, sur toutes les antennes, du matin au soir, radio, télévision, etc., etc. C'est-à-dire, quelle place vous prenez là-dedans? Comment vous vous situez par rapport à ça?
On peut rire de tout, mais sur les sujets sensibles, il faut être être excellent. On ne peut pas se permettre d'être à moitié drôle parce que sinon c'est la catastrophe. Et je pense que c'est en ça que je me reconnais le plus.
Oui, c'est ça. Alors au passage, puisque vous parlez du vote, de toutes les impasses dans lesquelles on se retrouve hein, systématiquement depuis de nombreuses années, c'est-à-dire comment inciter les jeunes à aller voter, vous tamponnez au passage les spots gouvernementaux, les campagnes qui encouragent le vote.
Pourquoi faut-il mal jouer pour faire un spot de sensibilisation?
C'est vrai. On s'est tous posé la question. Ouais. On s'est tous posé la question. Bon, vous vous y êtes mis, vous aussi, au spot gouvernemental. Ça s'est pas très bien passé. Moi, je l'ai vu, votre spot gouvernemental tourné pour le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est campagne de sensibilisation, non pas sur le vote, mais sur l'influence des théories du complot. Et là aussi, je trouvais que vos arguments, ils étaient super malins. Qu'en même temps, c'était pas très bien joué. Il y avait un truc qui se dégonflait instantanément en termes d'énergie, de mise en forme et tout ça.
Alors, je peux pas venir. Moi, j'étais très fier de cette campagne parce que, en fait, on se rend pas compte, mais les jeunes.
Vous êtes bien fait tamponner sur l'affaire, quand même.
Oui, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, la cible, c'était pas forcément les adultes ou les gens qui avaient mon âge. C'était les plus jeunes. Des petits de 13 ans qui me disent, mais est-ce que t'es reptilien ou pas? C'est quoi, reptilien? Bah, si, parce que t'as un lézard et que t'as pris apparence humaine, à la solde des lobbies Illuminati. Et là, tu te dis, mais il y a un délire, vraiment. Donc, du coup, non, je pense que c'est important de le faire. Je le fais depuis 3 ans dans mon spectacle où je conclue sur ça, donc en fait pour moi c'était dans la lignée. Après, naturellement, quand un artiste fait quelque chose en partenariat avec le gouvernement, bah, c'est toujours mal vu, mais je suis content
d'avoir fait. That's the point, en effet, évidemment, c'est-à-dire que c'est là l'autre ligne rouge, c'est-à-dire d'un côté il y a le rire et jusqu'à quand on reste crédible hein, dans le rire, puis l'autre côté il y a être main dans la main avec les institutions qui sont fortement décrédibilisé aujourd'hui auprès du jeune public. Et donc là, on a bien senti que quand vous êtes passé de l'autre côté du miroir, il y a quelque chose qui s'est rompu.
Oui, mais en vrai, moi, je voyais ça comme un spot de prévention, comme pour la sécurité routière ou à l'alcool au volant, etc. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment très content de l'avoir fait. Aucun regret.
Et quel regard vous portez sur toutes les campagnes, les spots, les jeux interactifs pour prévenir les jeunes contre la radicalisation qui émane du gouvernement? Moi, en général, les bras m'en tombent, je reste sans voix et je me demande quelle efficacité peuvent avoir ces messages. Enfin, on sent que là aussi, il y a une impasse, une vraie impasse, Kevin Razi.
Eh bien, je pense que j'ai exactement la même vision de ce type de spot que vous et c'est pour ça que j'ai fait ce premier épisode sur ce sujet.
Sur ce sujet. Il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation des sites terroristes, disant que c'était une entrave à la liberté. Les parlementaires sont en train de le réintroduire dans la loi. En attendant, il y a 12 personnes qui ont été condamnés de la prison ferme. Vous êtes pour de la prison pour la consultation des sites terroristes?
Si j'avais été pour, j'aurais pas pu faire ma première émission, donc je vais pas pouvoir vous répondre.
Je vous rassure, ne sont pas visés les journalistes, les députés, tout ça, qui travaillent sur le sujet, mais ceux qui y vont régulièrement. Kevin Razi, merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Rendez-vous avec vous, donc avec Kevin Razi, sur Canal+, lundi soir et sur Facebook, en live, Ohé les jeunes, comme qui dit. Il n'y aurait pas d'Instant M sans Violaine Balèze, sans Anne-Cécile Perrin et sans Redouane Tella. Heureusement que vous êtes là. Et Gaëlle Braouzec à la technique ce matin. Salut Ali Rebéi.
Salut Sonia De Villers, comment ça va? Qu'est-ce qui vous émerveille dans la vie, vous?
D'accord. Moi, on ne demande jamais. Hein. Et Philippe Vandel, je dis juste ça comme ça.
Philippe Vandel, qu'est-ce qui vous émerveille dans la vie?
Que ta vision du monde soit à chaque instant nouvelle, le sage et celui qui s'étonne de tout.
Moi, ce serait plutôt la crème de marron.
Donc ce matin, c'est très bien, c'est très prosaïque, mais c'est très bien. L'art de s'émerveiller dans un monde brutal, c'est le thème ce matin, 01 45 24 7000. Racontez-nous vos émerveillements quotidiens.
Alice.